repris, vous le savez, l'étude de la vie de Joseph, telle que nous la rapporte le livre de la Genèse, à partir du chapitre 37. Nous la poursuivons aujourd'hui. L'épreuve était le titre de notre étude précédente. Épreuve, titre bien connu de nous tous parce qu'il recouvre des choses dans notre vie, il recouvre notre vie à des degrés divers, bien des situations passées ou présentes, qui ont toutes ce caractère commun, l'absence de secours. L'absence de secours, ainsi pourrait-on définir l'épreuve. Pour le chrétien, tout particulièrement, l'absence du secours de Dieu, dont on attend le secours, car on sait bien qu'il n'est d'autre secours vrai que de lui. Telle est la situation de Joseph, telles sont parfois les épreuves que nous traversons. On en viendrait parfois à rêver de la vie sans Dieu. Sans Dieu, au moins, pas de problème de foi. Le chapitre 38, nous en avons dit deux mots à notre étude précédente, nous arrête tout net dans cette orientation. En effet, il nous fait survoler d'un coup les 20 années d'une vie comme ça, sans Dieu. La vie de Judas, le frère aîné de Joseph, qui un jour quitte la famille et qui s'en va de désastre en désastre pour une conviction finale, tout raté. Alors, question nécessaire, qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui nous tente? Joseph, Judas. Joseph, on ne sait pas encore vraiment, au niveau de notre étude, de l'histoire, où ça mène. Mais Judas, on nous le dit d'un coup, on nous annonce la catastrophe. Quel est donc pour nous le meilleur de ces deux chemins difficiles? Chapitre 39, nous y arrivons. Nous réfléchirons sur les 6 premiers versets de ce chapitre. Ils nous conduisent donc à retrouver Joseph en Égypte. Nous lirons ces versets dans un instant. Nous fixons simplement ici le titre de notre propos. Ténèbres et lumière. Ténèbres pour désigner la situation dans laquelle se trouve Joseph. Et lumière pour évoquer la situation nouvelle que nous font découvrir ces 6 versets. Ténèbres, d'abord. L'épreuve, c'est donc encore notre thème d'aujourd'hui, l'épreuve qui, après la brutalité de son déclenchement, s'installe maintenant dans le temps, dans la durée. Et on le sait, les épreuves qui durent sont les épreuves qui sont dures et d'autant plus dures qu'elles durent. Et quelle épreuve que celle de Joseph qui commence et qu'à la vivre, vous ne pouvez penser autrement que la vie d'avant, la bonne vie d'avant, c'est fini. C'est fini comme la vie de Soumaya. Soumaya est une jeune femme afghane. Elle témoigne depuis Kaboul le 1er septembre dernier, cet extrait du 1. Voilà ce qu'elle dit. Cauchemar. le soir où les talibans ont frappé à notre porte. Jusque-là, je me réveillais chaque matin, pleine de confiance et d'optimisme. En quelques heures, les espoirs que je portais ont été écrasés par les bottes de ces jeunes soldats. Mes rêves dissous comme un cauchemar qu'est devenu notre existence. La fin était arrivée. Perdu le sommeil à force d'inquiétude pour l'avenir, de sentiments d'impuissance, d'effondrement des rêves et des souvenirs ramenés à la poussière. C'est comme si la vie s'était arrêtée en un instant. Comme si ces 20 dernières années écoulées n'avaient été qu'un rêve. Les gens avec qui je parle sont comme moi, ravagés par la tristesse et le désespoir, les larmes et la terreur. Pour moi, aucune porte de sortie. Soumaya, un Joseph des temps modernes. Avec cet exemple, nous voici aptes à entrer un peu mieux, peut-être, dans la situation de Joseph, à en percevoir le drame, parce que de Kaboul, nous avons eu ces nouvelles, nous, ces derniers temps, les nouvelles et les images, et pour les femmes en particulier, plus d'espoir, de reconnaissance des droits, d'éducation, du travail, et tous les risques, du mariage forcé à la lapidation. Et au mieux, rester sa vie cachée dans sa maison. Soumaya, Joseph, un même degré de gravité m'a-t-il semblé, parce que dans la même perspective, celle d'un retour impossible, à tout jamais. Vendu par ses frères, Joseph, vendu à des étrangers pour être leur esclave. Fini la belle vie d'avant, évanoui les rêves de Joseph, une porte de sortie, aucune, pas le moindre espoir. Les mots de Soumaya sont sans aucun doute les mots de Joseph. Cauchemar, impuissance, effondrement, tristesse et désespoir, larmes et terreur. Joseph, dont la vie s'arrête à l'instant même où ses frères le remettent de force à des trafiquants de passage. Oui, les ténèbres de l'épreuve. C'est là que s'ouvre la quatrième étape de notre étude, marquée dès le début du chapitre 39, qui résume la situation ainsi. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. Et pour entrevoir la suite, nous avions ajouté les quatre mots qui suivent. L'Éternel fut avec Joseph, sans même terminer la phrase. L'auteur semblant nous livrer ici l'information qu'il ne pouvait pas retenir un instant de plus. L'Éternel fut avec Joseph. Quelle surprise! Quelle découverte! Allez-y de tous les qualificatifs possibles. Inattendu, évidemment. Incroyable. Parce que c'est ce qu'on voit, mais qu'on a quand même du mal à croire. Inimaginable, c'est-à-dire appartenant à l'impossible. À preuve tout ce qui vient de se passer. L'Éternel fut avec Joseph. comme une introduction explicative à tout ce qui va suivre. Parce que c'est par la présence de l'Éternel qu'on va comprendre la suite. Comme aussi une découverte qui va changer la vie en changeant le cours des choses. Parce que si l'Éternel est là, alors ça ne peut pas continuer comme avant. C'est ainsi que l'auteur nous offre maintenant un tout autre tableau de la situation de Joseph. Nous le découvrons en allant jusqu'au verset 6, donc Genèse 39, 1 à 6, et je le lis tout lentement pour qu'on puisse bien en saisir le côté extraordinaire eu égard aux ténèbres de Joseph et intense. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître, celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant dans sa maison. Il lui conféra la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison et dans ses champs. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Lumière, c'est bien le mot qui convient pour résumer cette situation nouvelle, et ô combien différente. Tellement impressionné par ce revirement de situation, je me suis dit, voilà le titre de mon message. Après les ténèbres, la lumière. Quelle lumière, en effet, que celle de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Une lumière qui éclaire tout. Elle éclaire ici chacun des personnages. Joseph, d'abord. Elle éclaire la qualité de son travail. Il est l'homme qui sait tout faire, qui réussit tout. Des dons remarquables d'organisation, de gestion. Elle éclaire le maître, Potiphar. Ses choix pour s'entourer de personnes ayant toute la compétence nécessaire et s'étant révélé digne de confiance. Bon, Joseph, au travail, nous en parlerons plus tard. Observons seulement ici que la présence de Dieu semble écrire pour Joseph une autre histoire. Elle est le facteur qui semble tout changer. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte que, et ces six versets, vous pourriez les reprendre comme ça, de sorte que tout s'oriente par son action, tout s'explique par ses effets. Le succès de Joseph, l'évolution de son statut, voyez plus tôt. Il commence esclave probablement au milieu de tout un tas d'autres esclaves. Et voilà que Potiphar l'en détache pour le réserver à son service personnel. Il le loge donc chez lui. Premier signe d'élévation. Ce n'était pas la place d'un esclave dans la maison du maître. Et puis finalement, suprême degré d'avancement, il en vient à lui déléguer la totale gestion de ses biens. En nous informant ici, l'auteur, manifestement, dans ces six versets en particulier, nous invite sur la situation présente de Joseph à l'enthousiasme et pour l'avenir de Joseph à l'optimisme le plus complet. Et pour nous impressionner un petit peu plus, il condense sa description en seulement sept petites phrases. Pour ce faire, il condense le temps. Parce que, quand même, il s'est écoulé du temps entre le moment où Potiphar achète Joseph et le moment où il lui confie l'intendance de sa maison. Intendance qui elle-même a dû durer un certain temps jusqu'à ce qu'il croise une certaine dame Potiphar. À voir plus tard. À coup sûr, des années. Est-ce qu'il faut dire 5 années, 10 années? J'en sais rien, mais des années. Et pendant tout ce temps, brille sur la vie nouvelle de Joseph la lumière de Dieu. Retournement total de situation. Des ténèbres à la lumière. Ah, ça pourrait être le bon titre pour notre étude. Après les ténèbres, la lumière. Un peu comme après la pluie, beau temps. C'est-à-dire que fini la pluie, fini les ténèbres, fini l'épreuve de Joseph. Fini l'épreuve de Joseph ? J'en aurais quasiment oublié le terrible contexte à lire ces versets-là. On se rassure à bon compte, parfois, des épreuves des autres. Surtout quand nous connaissons la suite de l'histoire. Mais gardons-nous bien de la prendre en compte, la suite de l'histoire. Parce que Joseph ne la connaît pas. Et nous non plus, dans l'épreuve, nous ne savons pas ce qu'il va advenir. Et une des difficultés de l'épreuve est précisément celle-ci. Nous ignorons quand elle va finir. Nous ignorons même si elle va finir. Nous pensons même parfois qu'elle ne finira pas. Et parfois, effectivement, elle ne finit pas. Ne voyez-vous pas un meilleur titre à notre étude ? Après les ténèbres, la lumière ? Ça colle pas, hein. Ah, ça serait quand même bien que, avant d'arriver à la conclusion, on ait le titre du message. Non. Pas la lumière après les ténèbres, mais la lumière dans les ténèbres. Certes, l'auteur ici nous décrit l'une après l'autre, les ténèbres dans toute leur noirceur, bien sûr, avec l'injustice qui frappe Joseph. Et puis, les six premiers versets du chapitre 39, la lumière dans tout son éclat, par la présence de Dieu. Mais nul retournement de situation, la lumière succédant aux ténèbres, non. Dans notre vie, c'est comme dans la vie de Joseph. Dans nos épreuves, c'est comme dans l'épreuve de Joseph. les situations se superposent. Lumière dans la nuit. Ténèbres de l'épreuve. Et dans cette épreuve, lumière de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans l'épreuve, c'est le bon titre. Parce que c'est la bonne réalité. De cette réalité, je tire deux réflexions. Comme deux côtés d'une même réalité. Disons, l'épreuve côté ténèbres, d'un côté donc, et l'épreuve côté lumière, de l'autre. Côté ténèbres. Cette réflexion, elle porte sur la nature du secours de Dieu. On pourrait dire, il y a secours et secours. Il y a le secours que nous connaissons bien, parce que c'est le secours qu'on voudrait, c'est le secours qu'on souhaite, c'est le secours qu'on réclame, parce qu'on connaît bien le secours dont on a besoin dans une épreuve. On crie, on prie pour ce secours. Et ce secours, on le sait possible. Possible de la part de Dieu, il est tout puissant. Et plus encore, parce que on le sait, infini est sa grâce. Et puis, on y ajoute parfois la valeur de l'expérience, parce que dans des épreuves passées, ça s'est passé comme ça. Secours demandé, secours accordé, à l'identique. C'est vrai, c'est tellement beau quand c'est comme ça. Et puis, il y a le secours de Dieu. De Dieu. C'est-à-dire, le secours qui vient de Dieu. Le secours dont Dieu a l'initiative. Le secours que Dieu nous accorde, c'est-à-dire choisi de nous accorder. Pour sauver Joseph de la haine de ses frères, pour le faire échapper à la caravane des Ismaélites, il n'a pas levé le petit doigt, Dieu. Refuser le secours que réclamait Joseph, à la peur de Joseph, au désarroi de Joseph, à la vie qui bascule, aucun secours. C'est ainsi que l'on conclut parfois à l'absence de Dieu. Pire, il vous entend, Dieu, vous le savez, il vous entend, et il vous répond pas. Il vous aime, vous le savez, et il vous laisse tomber. Oui. Il y a le secours que je demande, et il y a le secours que Dieu me donne. Il y a le secours auquel je demande instamment à Dieu de répondre. Pardon. Il y a le besoin auquel je demande à Dieu de répondre. Et il y a le besoin auquel Dieu choisit de me répondre. Dans l'épreuve, là est le plus difficile. Faire le deuil du secours attendu, du secours demandé. Et renoncer, ça, nul doute que vous êtes comme moi, renoncer toujours tellement difficile. parce que nous voilà tenus de nous plier à sa volonté. Mon papa allait mourir dans quelques jours. Je me hasarde à lui dire quelque chose comme ça. Les circonstances semblent nous suggérer que le Seigneur voudrait te reprendre bientôt. Et je sollicite sa réaction, importante bien sûr, parce que c'est lui qui est en première ligne. Et il me dit simplement, du moment que tu l'acceptes, à moi de finir la phrase, du moment que tu l'acceptes, il l'avait accepté. Je remercie le Seigneur à titre personnel d'avoir entendu cette phrase. Pas dans les histoires qu'on raconte, mais dans la vraie vie. Ça, c'était le côté ténèbres. Côté lumière. Le secours de Joseph était dans la présence de Dieu, à ses côtés, dans son épreuve. Et aussi longtemps que durera son épreuve, durera le secours de la présence de Dieu. L'auteur ici, me semble-t-il, prend un peu le rôle de l'observateur. Et vous êtes avec lui dans les coulisses comme si vous étiez dans les coulisses d'un théâtre. Vous avez juste écarté le rideau, hein, par derrière. Vous avez vu la scène. Et à côté de Joseph, vous avez vu quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'Éternel. Oh, impressionnant, hein? Mais comment Joseph a-t-il pu commencer à l'apercevoir, lui, à en découvrir les effets dans sa tâche d'esclave? Nous ne savons pas le moment, nous ne savons pas le détail, mais à lire ce que nous dit l'auteur, au moment où ce fut éblouissant, sans aucun doute. Et ces sept versets-là, condensés, nous le disent. L'Éternel fut avec Joseph de sorte que, et c'est un feu d'artifice, que ces six versets. Pardon. J'arrive ici au bout de l'exhortation que je peux me sentir libre de vous apporter. Car comment, sur l'expérience de Joseph, vous annoncez les effets de la présence de Dieu dans vos épreuves? J'estime n'y avoir aucun droit. Je ne puis faire qu'une chose, et je fais ce choix, témoigner de sa présence dans une épreuve de notre vie commune, Annie et moi. Nous avons 22-23 ans, il y a un certain temps. Nous avons le projet de former un couple, une famille, sous le regard de Dieu. Et nous sommes convaincus que c'est Dieu lui-même qui a initié cette orientation. Et ça fait déjà des années. Je finis à Grenoble mes six premiers mois de service militaire. C'était encore en vigueur à l'époque. Quand tombe la nouvelle. La nouvelle, c'est que je suis sur la liste des départs en Algérie, où une guerre finissante, certes, sévit encore. C'est le drame. pour nous deux. Le déchirement total. Et je nous revois le week-end où Annie venait de Lyon chez mes parents. Nous avons crié à Dieu. On ne lui a pas dit, Seigneur, tu sais, on va vivre un truc, il faut que tu interviennes. Nous avons crié à Dieu. Vous savez, comme le psalmiste le dit quelquefois, ce n'est pas pour nous impressionner, c'est parce qu'il a crié vraiment. Et nous avions en particulier cette prière que nous répétions de semaine en semaine. Seigneur, tu as promis, tiens tes promesses. Et on les connaissait, les promesses. Je suis avec vous tous les jours. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Demandez, vous recevrez, etc. Seigneur, tiens tes promesses. Et puis est arrivé le jour fatal. Annie m'accompagne à la gare où je vais prendre le train pour Lyon, donc pour ce qui allait être 2 années d'absence. Pas une larme. Aucune peine à se quitter. Pas la moindre inquiétude sur l'avenir. Une douce tranquillité. Une espèce de bien-être totalement étranger à la circonstance. Ce n'était pas une séparation. Quand Annie rentre, c'est elle qui va consoler ma mère. Et je me revois dans ce train qui commence à partir, me demandant ce qui m'arrivait. Émerveillé de l'état de paix dans la tête, dans le cœur, dans lequel je me trouvais. Je ne saurais même pas le définir autrement qu'en disant que c'était d'une autre nature que celle des bonheurs humains, fussent-ils les plus grands. Eh oui, c'est la présence de Dieu. Dans nos épreuves, nous avons un point commun avec Joseph. C'est la présence de Dieu. Le Seigneur ne nous accorde pas toujours le secours que nous lui demandons. Mais il est un secours promis, garanti, le secours de sa présence dans notre épreuve. Et Dieu tient toujours ses promesses. Et puis c'est le secours parfaitement adapté à toutes les situations de la vie. Quand j'observe comment nous suivent depuis là-haut les services du Seigneur, parce qu'il y a une belle équipe, hein, imbibés qu'ils sont tous de la grâce de leur maître, quelle admiration, quelle reconnaissance doivent à tout jamais nous saisir. Voyez, dans notre cas, pour aller de la route de la Maladière à la gare, il faut compter 10 minutes. Ce jour-là, pile sur ce trajet-là, à ce moment précis, pile en même temps, dans le cœur d'Annie, et dans le mien, le secours de l'Éternel. Vous avez vu comment on est suivi là-haut? C'est quelque chose, hein? c'est le secours pour notre temps, comme pour celui de Joseph. Parce que rien n'a changé. Parce que Dieu n'a pas changé. Son plan de salut reste offert à tous. Ses promesses demeurent. Elles ont la solidité de l'Éternel. D'ailleurs, si vous ne l'aviez pas encore fait, c'est le moment de faire vers lui le premier pas, celui de la foi. Pardon quand même, je vais terminer là, de faire comparaison entre l'expérience de Joseph et la nôtre. Quelle disproportion en effet. Avec Joseph se jouait l'avenir du peuple d'Israël que Dieu, par l'Égypte, allait réorienter. Une grosse affaire dans le plan de Dieu, dirait-on. Alors, Dieu auprès de Joseph, ok, je comprends. Mais comment comprendre qu'au XXe siècle, à un certain moment, 10 minutes près, Dieu vienne apaiser la séparation de deux amoureux? C'est que c'est encore le même Dieu. Donc, les mêmes promesses pour quiconque a mis sa confiance en lui. Nul n'est trop petit pour être privé de cette grâce-là. La présence de Dieu dans son épreuve. Bien sûr, après cette espèce de moment de ciel sur la terre, il nous fallait vivre les 2 années de séparation qui s'annonçaient. Mais cette expérience-là allait les éclairer, les apaiser et devenir un encouragement permanent. Ça voulait dire que dans notre projet de vie, nous étions sur le bon chemin. La preuve, Dieu était là. Quant à Joseph, bon, c'est quand même son histoire que nous étudions, pas la nôtre. Nul doute que la découverte de la présence de Dieu à ses côtés allait éclairer la suite de sa nouvelle vie. Ben, c'est ce que nous observerons dans les prochaines études. Je vous invite un tout petit moment de recueillement personnel et puis nous chanterons un cantique pour clôturer.